Radio de la Paix.
Reportage.
Dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants dans les chaînes d'approvisionnement, le directeur général de l'Organisation internationale du travail, OIT, en mission de 72 heures en Côte d'Ivoire, a visité une plantation de cacao dans la zone d'Agboville. Cela lui a permis de se rendre compte de la politique de traçabilité mise en œuvre par les autorités ivoiriennes pour le cacao. C'est l'objet de ce reportage réalisé par Junior Cardin. C'est au son de la fanfare que la délégation conduite par Gilbert Ngo, directeur général de l'OIT, a été accueillie dans le village d'Akédouanier. Le champ à visiter est à quelques mètres du lieu d'accueil. Et c'est le préfet de région, Koulibaly Siendou, qui, à l'entame du parcours, va engager quelques explications à l'endroit de la délégation.
Dans le champ de cacao, on a planté des arbres. Vous avez vu, pour régénérer la forêt. Donc ici, c'est du cacao. Mais vous voyez, vous avez le cacao, vous avez de la banane. Parce qu'il faut vivre toujours. Voilà. Donc on associe les deux. Ça, c'est le champ de quelqu'un et il a fait ça pour nourrir sa famille en même temps. C'est pour la consommation locale, pour eux-mêmes. Dans ce champ, il va vous expliquer combien de pieds d'arbres il a mis pour régénérer la forêt.
Quelques pas de marche et nous voici dans la plantation de cacao de M. Moussa. La bienvenue est prononcée par Yao Kwame René, directeur de la société coopérative simplifiée Benkadi d'Akédouanier, en abrégé Scoops Bad.
C'est pour moi un grand honneur de m'adresser à vous ce jour pour vous souhaiter la cordiale bienvenue dans ce magnifique village akédouanier. Cette visite est pour nous le couronnement du travail acharné avec la coopération allemande depuis 2015. Cette coopération nous a permis de développer le management et la gestion de la coopérative d'une part et la professionnalisation des producteurs d'autre part.
Puis, il est revenu au propriétaire de relever les caractéristiques de sa plantation.
Je suis Souge Moussa, fils de planteur et moi-même planteur. Depuis 2001, j'ai commencé ce champ. Et nous avons reçu l'appui des coopératives et l'agriculture, la NADER et la GIZ qui nous ont appris la bonne pratique agricole. Il faut savoir que ton champ, c'est ton entreprise. Ton champ, tu dois prendre soin de cela. Et tu dois planter les arbres. Et tu dois savoir gérer tes revenus. Mais ce qui nous a intéressé beaucoup, ce sont les arbres. Les arbres sont très importants dans le champ du cacao. Aujourd'hui, nous voyons qu'il fait beaucoup chaud. Mais quand on a commencé à planter les arbres depuis le projet est venu, on a senti l'amélioration de nos cacaoyers. Et quand on voit où il y a les arbres, le cacao est moins attaqué. Même si tu n'as pas traité, on voit que le cacaoyer, les feuilles sont très bien. Donc, les arbres sont très bien. Donc, j'ai diversifié. Il y a toutes sortes de bois dans mon champ. Et les arbres qui se trouvent dans mon champ, je peux l'évaluer à 280 dans la superficie de 3 hectares. Donc, il y a toutes sortes. Il y a avocatiers, il y a les orangers, il y a les manguiers, il y a les papayers, il y a les palmiers, il y a manioc. En tout cas, tout ce qu'il faut pour un homme pour vivre. Donc, même si on n'a pas cueilli cacao, on peut manger. Donc, tout peut réussir dans le champ du cacao.
Après ces civilités, place à la chaîne de production avec comme première étape la cueillette des cabosses. Exercice que réussit bien le directeur général de l'OIT.
Quand il regarde là-bas, c'est le cacao jaune.
Bon, donnez le mandat au DG.
L'extérieur comme l'intérieur, c'est possible.
Parfait. Allez. Voilà. On ramasse nos cabosses et puis on va au centre où on va traiter les cabosses. On prend les cabosses, on vient ici. Qu'est-ce qu'on fait?
Ici, on va faire les cabossages. On va ouvrir les cabosses.
On va l'extraire. Quand on a fini de cabosser là, qu'est-ce qu'on fait?
Voilà, quand on a fini.
Elle va décaposer.
Donc quand c'est bien jaune, c'est pas sucré.
Les cabossages terminés, il faut passer au séchage.
D'abord 6 jours de fermentation. Et après les 6 jours de fermentation, chaque 2 jours, on retourne les fèves. Et après les 6 jours, quand c'est bien fermenté, on vient mettre ça sur les clairs qui sont faits à face de bambou. Et sur les clairs, ça va servir à sécher. Normalement, on le fait au village ou bien sur un espace dégagé où le soleil va pouvoir faire sécher. En moyenne, autour de 3-4 jours, il est bien séché quand c'est les périodes où il y a du soleil. Mais quand c'est la saison des pluies, ça va prendre un peu plus de jours. Pour ces graines, c'est fini. Après le séchage, maintenant, on va passer à mettre cela en sachet.
Quelle est l'importance du séchage et la fermentation dans la qualité?
Alida va répondre un peu.
La fermentation nous permet d'avoir les bons arômes, d'optimiser la qualité des fèves en termes d'arômes, des caractéristiques oligoleptiques, comme on le dit, tout ça là. Quoi, on conseille de fermenter avec des feuilles de bananier et de faire la fermentation 6 jours. Donc après la fermentation, maintenant, on dépose le cacao sur les plaies. Il a déjà la couleur marron. Ça, c'est la meilleure couleur. C'est comme ça que le cacao doit être. Donc comme elle a dit, après cette étape-là, comme on a dit, chaque producteur est responsable de sa production.
depuis la production jusqu'à l'entachage, ça c'est assuré par le polyester.
D'accord.
Donc le polyester, quand c'est comme ça, il ramasse, il met dans le champ de cacao.
Il faut donc laisser la place au conseil du café cacao pour faire sa démonstration pour la traçabilité du cacao sous le regard bienveillant du directeur général de l'OIT, Gilbert Unugo.
Bon, on va essayer de reculer un peu, hein, pour laisser l'espace, hein, au conseil du cacao de faire sa démonstration. Voilà, s'il vous plaît. Merci beaucoup.
Ok, merci beaucoup. Alors, je me présente, je suis Dadi Arsène, je suis le coordinateur du projet traçabilité au Conseil du Café Cacao. Je voudrais vous partager la vision et les acquis du Conseil en ce qui concerne la mise en place d'un système de traçabilité dans la filière Café Cacao. Alors, on l'appelle tantôt système unifié de traçabilité ou national de traçabilité. Unifié pourquoi ? Parce que c'est un système qui s'est inspiré des microsystèmes déployés par les multinationales, par les privés, pour faire la traçabilité et ensuite il a un caractère national parce que c'est ce système-là, quand il sera implémenté, qui sera le système de référence pour retracer les origines de toute la production de café et de cacao en Côte d'Ivoire. Le Conseil du Café Cacao a bien adressé les problématiques liées à la production durable de café et de cacao. Et pour y parvenir, il a déployé un vaste programme d'amélioration de son système de gestion des flux physiques et financiers tout au long de la chaîne valeur. Et l'une des phases importantes de ce programme-là est l'opérationnalisation du système national de traçabilité. Alors cette opérationnalisation-là a été déclinée en trois étapes. La première étape a consisté à identifier tous les producteurs de café et de cacao, d'où le recensement des producteurs. Et ensuite, de se rendre dans la parcelle de chaque producteur pour lever les superficies des parcelles de café et de cacao. Et donc, au terme de ce recensement-là, nous avons dénombré environ 1 million de producteurs de café et de cacao en Côte d'Ivoire et 3 220 000 hectares de café et de cacao, dont 15% seulement ont été localisés dans les aires protégées. Et après le recensement des producteurs et de leurs vergers, la deuxième phase de notre système de traçabilité a consisté à produire et à distribuer gratuitement des cartes à l'ensemble des producteurs.
Dadi Arsène poursuit pour indiquer les spécificités de la carte du producteur.
C'est d'abord une carte professionnelle. Désormais, à l'instar des fonctionnaires, le producteur pourra prouver à travers la présentation de cette carte-là qu'il est producteur. Elle comporte sa photo. Ensuite, elle comporte un QR code qui renferme l'ensemble des informations sur l'identité du producteur, sur sa famille, son ménage et l'ensemble des superficies de café et de cacao dont il est propriétaire. Alors, le conseil ne s'est pas limité seulement à collecter des informations qualitatives sur le producteur. On a souhaité que la carte serve de support de transactions dans la filière café-cacao. Ainsi, il s'agit d'une carte Visa qui est dotée d'une puce bancaire. Et donc, grâce à cette carte-là, désormais, à l'achat du produit, le fruit de la vente sera directement viré sur la carte. Et après, le producteur pourra se rendre dans une banque pour retirer son argent ou dans un point de retrait mobile money. La carte sera utilisée comme support dans ce système de traçabilité là. Une autre précision sur la carte, c'est qu'elle comporte désormais un matricule unique pour tous les producteurs de café et de cacao. Désormais, quand un producteur participe à un programme, il est identifié par ce matricule unique là. Et donc, ce matricule permet d'éliminer le risque de doublons lorsque nous travaillons avec les producteurs, tel que c'était fait dans les programmes de façon privée dirigés par certains opérateurs. Et le système présente les caractéristiques suivantes. Premièrement, grâce à ce système-là, nous allons dématérialiser l'achat du produit en introduisant des outils modernes qui permettent au moment de l'achat d'enregistrer les informations relatives à la transaction. Le système permettra aussi la digitalisation des paiements aux producteurs pour permettre de respecter le prix bord champ, parce que le prix bord champ sera paramétré dans les différents outils, les terminaux, de façon à ce que quand on enregistre le poids, automatiquement le montant est viré sur la carte du producteur pour sécuriser son revenu. Et vous le verrez tout à l'heure dans la démonstration, les sacs porteront une identité qui est un scellé que nous allons poser à l'achat du produit, un scellé qui comporte un matricule qu'on rattache au moment de l'achat à l'identité du producteur, de façon à ce que tout au long de la chaîne, quand on rencontre le sac sur lequel est apposé un scellé, on puisse remonter au producteur qui a vendu le produit et donc à la parcelle qui a été levée pour le compte de ce producteur qui est enregistré dans le système.
Nous allons assister à présent à une démonstration d'achat de cacao bord champ avec Alexandra du Conseil Café Cacao.
Le délégué ici présent se présente muni d'un terminal comme celui-ci. Une fois qu'il se connecte à ce terminal, ses informations personnelles, sa sa fiche, donc son nom et son prénom, ainsi que le nom de la coopérative à laquelle il appartient. Également, un montant, son solde en monnaie électronique, qui correspond au montant qu'il peut acheter, à l'équivalent de cacao ou de café qu'il peut acheter, sa fiche sur le terminal. Donc maintenant, nous allons débuter l'achat de cacao. Le producteur va cliquer sur le module « Acheter du produit ». Une fois qu'il clique sur ce module, le producteur se présente muni de sa carte. Le délégué va scanner le QR code au dos de la carte du producteur et nous pourrons voir sur le terminal que toutes les informations de la carte du producteur s'affichent sur notre terminal. Donc nous avons bien le producteur André, Yapi, Christian. Les mêmes informations de la carte se retrouvent sur le terminal du délégué. Ensuite, nous allons choisir la spéculation, donc aujourd'hui cacao. Nous allons sélectionner également le type de certification. Si la coopérative participe à un projet de certification, nous pourrons sélectionner là où les certifications. Ensuite, nous allons choisir le mode de peser. Le système développé par le conseil Café Cacao nous permet de peser soit un sac à la fois, soit plusieurs sacs à la fois. Maintenant, nous allons prendre nos sacs de cacao, les mettre sur notre balance pour avoir le poids de ces sacs.
145 moins 2.
143. Le poids total des deux sacs qui s'affichent est de 145 kg. Donc, de 145 kg pour ces deux sacs. Donc, le délégué va saisir le poids de 145 kg dans cet espace. Vas-y, tu tapes dessus. 145. L'étape suivante, c'est de rajouter un scellé à chacun des sacs de cacao.
La coopérative Rasso est bien présente dans la chaîne d'approvisionnement du cacao dans la région de l'Agnébi. Alida Ntakwe Koulibaly en est la présidente.
Rasso est une coopérative située à Beauville. Nous sommes actuellement à 1022 membres, dont 218 femmes.
On fait la vente ensemble et puis à la fin de l'année, les revenus sont partagés. On fait aussi des services aux membres. On fournit des services aux membres, on leur donne des intrants, on leur fournit des formations. Mais on travaille à ce que vraiment on puisse permettre à ce que le producteur puisse avoir le revenu qui puisse lui permettre de vivre bien avec sa plantation.
Pour cette visite au champ, quelques dérivés du cacao ont été dressés dans un stand tenu par Kofi Kwame, conseiller technique à la coopération allemande GIZ.
Nous accompagnons les structures coopératives dans la production des boissons à base de cacao et aussi nous utilisons les dérivés du cacao pour faire de l'économie circulaire en quelque sorte. Donc ce que nous faisons ici sur notre stand, c'est que nous utilisons les cabosses de cacao pour faire la production de champignons, de combustibles et puis de vinaigre à base de jus de fermentation de cacao.
Donc le champignon qu'on peut bien consommer comme tous les autres champignons naturels là.
Oui, comme vous le voyez bien, c'est du champignon pleurote. Le pleurote, c'est un champignon très prisé pour la consommation. On peut même aussi faire du volvers qui pousse sur le palmier là, ce que vous avez l'habitude de voir ici, ce qui pousse sur le palmier naturellement là. On peut aussi en faire avec les épluchures de cacao.
Et à quoi ça aussi c'est consommé?
Ça aussi c'est comestible. Donc ce sont des champignons comestibles. Au fait, on fait ça pour au moins donner une nouvelle vie aux cabosses qu'on jette dans nos plantations qui sont même souvent source de contamination de la plantation et les utiliser pour en faire des pleurotes comestibles. Non seulement ça peut contribuer à lutter contre l'environnement et puis aussi aider les producteurs sur le terrain pour leur alimentation parce que c'est aussi comestible. Voilà.
C'est l'eau.
Après la production de champignons, c'est le reste qu'on utilise pour faire du compost, donc du bio-engrais qui peut être utilisé aussi dans les plantations. Mais comme ce n'est pas en quantité, nous on préfère dire que c'est pour les maraîchers, pour les femmes qui font les gombos, elles peuvent utiliser comme de l'engrais pour pouvoir produire en quantité.
Ça, c'est du combustible. Ça veut dire qu'on peut utiliser ça pour faire du feu, c'est ça?
C'est un combustible à base de cortès, mais qui est utilisé aussi pour faire du feu. Là, nous sommes en train de proposer aux boulangeries pour faire chauffer leur four, parce que ça brûle deux fois plus que le bois de chauffe. Voilà.
Et ça, c'est le vinaigre, hein?
C'est du vinaigre, c'est le jus issu de la fermentation. En faisant une double fermentation. D'abord, une fermentation alcoolique, après une fermentation acétique pour sortir du vinaigre à 5 degrés surtout, parce que le vinaigre d'assaisonnement qu'on préconise, c'est le vinaigre d'assaisonnement à 5 degrés. Et généralement, souvent, on retourne sur le marché avec des vinaigres à 6, 7 degrés qui ne sont pas vraiment conseillés. Mais avec le cacao, on arrive facilement à obtenir 5 degrés.
Ça a le même goût que les autres vinaigres qu'on a l'habitude de consommer.
Avec encore une saveur de cacao derrière. C'est vraiment génial. Souvent, c'est très bon pour faire la salade. Ceux qui aiment découvrir, souvent, quand ils font des salades avec du vinaigre de cacao, c'est vraiment génial.
Ça veut dire que bientôt, avec le cacao, on ne jettera plus rien.
Avec le cacao, c'est ce qu'on est en train de promouvoir. voir, c'est que depuis la fève jusqu'au déchet, on arrive à tout utiliser pour non seulement la production, la consommation, mais aussi l'amélioration de la vie des producteurs sur le terrain et aussi leurs revenus en quelque sorte.
Au terme de sa visite, le directeur général de l'OIT, Gilbert Ungo, a reconnu la qualité du travail abattu par le gouvernement ivoirien pour la traçabilité du cacao dans la politique générale de lutte contre le travail des enfants.
Dans ce cadre, évidemment, vous pourrez comprendre comme directeur général du BIT, nous applaudissons tout le travail que les uns les autres déploient pour justement mettre fin à la question du travail des enfants, incluant les ONG et autres qui travaillent sur la dénonciation et autres. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il est aussi très important pour nous de savoir reconnaître le travail qui est fait sur le terrain. Et c'est ça que nous sommes venus constater ici. On ne peut pas juste dénoncer en étant de loin sans voir les difficultés pratiques auxquelles les administrations, auxquelles les producteurs font face. Et ici, ce que nous voyons ici, c'est une démonstration de vivos sur les efforts du gouvernement ivoirien, de la population, pour justement éradiquer le travail des enfants et en même temps rendre la production de café-cacao aussi plus durable. Et nous venons d'assister aussi à une démonstration au niveau de l'utilisation de l'intelligence artificielle pour la traçabilité des fèves là-dessus. Évidemment, vous savez très bien que la question du travail des enfants, c'est une question très sensible et il est toujours difficile de façon pratique de savoir cette ligne rouge où est-ce que d'un côté le besoin de transmettre une culture, le besoin de transmettre un savoir-faire à la génération suivante et de l'autre côté le risque de tomber à l'excès et d'empêcher les enfants d'être à l'école ou bien sur les terrains de jeu. Donc c'est une question de trouver le juste équilibre. N'oublions pas non plus que les études du BIT le démontrent. N'oublions pas non plus que la question du travail des enfants, les causes profondes, c'est aussi la pauvreté. Donc il nous faut avoir une approche intégrée, une approche globale. Ce n'est pas seulement une question de cibler le travail des enfants au niveau de la filière cacao. Sinon, ce qui se passe, bon, on peut dire que voilà, le cacao est exempt du travail des enfants, mais si les problèmes de base ne sont pas réglés, ce travail des enfants va se déplacer vers la culture de l'arachide, la culture de l'anarcade ou le travail domestique et autres. Donc c'est important pour nous d'avoir une approche intégrée et c'est sur ça que le BIT s'attelle. Ici en Côte d'Ivoire, hier on était au Ghana et ailleurs aussi, nous savons que globalement 75% du travail des enfants se passe dans quel secteur ? Le secteur de l'agriculture. Ça, nous le savons, que ce soit en Afrique ou ailleurs. Mais étant donné que l'Afrique, notre région, c'est un continent où est-ce que l'agriculture demeure le premier pourvoyeur en termes de PNB, de produit national brut, il va sans dire que le travail des enfants, en termes de nombre, se passe plus chez nous en Afrique. Donc c'est aussi important que nos dirigeants continuent d'y attacher l'importance que nous avons vue ici. Mais moi, je repars d'ici, je ne suis pas surpris, je dois dire, et je repars d'ici avec insatisfaction sur les efforts que nous voyons et les résultats aussi. Reconnaître les efforts et les progrès ne veut pas dire qu'il n'y a plus du travail à faire. C'est sûr, il nous faut continuer la lutte. Mais on voit vraiment la détermination d'un pays, la détermination d'un gouvernement à régler cette question tout en assurant aussi le volet économique de la chose. Pour moi, c'est vraiment spectaculaire, c'est une grande différence lorsque l'on compare la situation il y a 5 ans.
Avant de quitter la Côte d'Ivoire, le directeur général de l'OIT a participé à une conférence de haut niveau sur la promotion du travail décent dans les chaînes d'approvisionnement pour éliminer le travail des enfants. Ce reportage vous a été présenté par Junior Cardin.
C'était Reportage.
Radio de la Paix.